passages. L'un, enfin les deux sont bien connus. L'un dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, et au verset 20. Voici ce que le Seigneur dit ici. Il dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors, j'aime bien cette traduction, c'est une ancienne traduction qui dit « Je suis avec vous tous les jours et pour toujours. » Voilà. Traduction qui, il me semble, est infiniment mieux. « Je suis avec vous tous les jours et pour toujours. » Alors, ce n'est pas une vague déclaration que fait ici le Seigneur Jésus, mais c'est une promesse que l'on doit, autant que possible, réaliser, vivre au quotidien. Le Seigneur est avec nous, il est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie, il est avec nous dans toutes les heures de notre vie, le Seigneur est celui qui demeure avec les siens, il est notre Emmanuel, Dieu avec nous. Ceci étant pour le premier verset sur lequel nous reviendrons, j'aimerais aussi faire la lecture dans un autre passage, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et à partir du verset 15. Voilà, c'est ça. Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce que le monde n'a pas fait d'expérience, notamment l'expérience de la nouvelle naissance, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Le deuxième passage sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions ce soir est celui-ci. Jésus dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté à réaliser cela, à croire cela. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça aussi, ce n'est pas une vague déclaration, c'est quelque chose que l'on doit vivre au quotidien. Alors cette dernière affirmation, nous la tenons de Jésus lui-même. Et bien sûr, nous lui faisons confiance, tant pour la promesse et les promesses que Jésus fait, que pour la réalisation de toutes ses promesses. Donc ce soir, je voudrais vous parler de ce fait, de Dieu qui est avec nous. Et on s'arrêtera dans un second point sur le fait que Dieu vit en nous. C'est tellement important. Alors, on va examiner la première portée de cette fantastique promesse. Le Seigneur est avec nous tous les jours, et ce, du jardin d'Éden, jusqu'à notre arrivée dans la gloire, la révélation de Dieu n'a jamais cessé d'exister et elle continue. Alors, dans le jardin d'Éden, ce qui m'a étonné et à la fois bouleversé, c'est que Dieu répand sa grâce sur des gens déchus. Alors, je fais allusion à la chute d'Adam et de Ève. Ils ont transgressé le commandement de Dieu. Ils sont déchus. Mais Dieu ne les met pas pour autant de côté. Et ça nous interpelle. Dieu ne les met pas de côté. Au contraire. Il est un passage que j'ai relevé et qui dit ceci, après qu'ils aient été déchus, Dieu visite le jardin et ils entendent la voix de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Je crois que, je ne voudrais pas vous choquer, mais je crois que même les gens qui ont péché et qui se sont éloignés de Dieu, Dieu pour autant ne s'est pas éloigné d'eux. Et Dieu leur parle comme il parle ici à Adam et Ève. Ils entendent la voix de l'Éternel Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Je continue de brasser en ce qui concerne l'ancienne alliance. Dieu sera avec un de ses serviteurs, pour le nommer Moïse. Moïse qui, lui aussi, ne s'est pas comporté comme il aurait dû le faire. Bon, un jour, il a eu un coup de colère, et puis il a tué un homme. Il a dissimulé le corps de cet homme et il pensait qu'il n'avait été vu de personne. Bien sûr, Dieu l'avait vu, hein. Et puis, quelqu'un d'autre aussi. Alors, Moïse s'en va. Il va au désert et vous savez qu'il y est resté quelques années dans ce désert. Est-ce que Dieu, pour autant, s'est éloigné de Moïse? Ben, figurez-vous que non. On peut le croire. Mais ce n'est pas le cas. Il est dit, à un moment donné, que Dieu l'appela, quand Dieu se manifeste dans le buisson, vous savez, le buisson ardent. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et le texte nous dit que Moïse répondit, « Me voici. » Dieu cherche à préparer une délivrance pour son peuple. Et Dieu déclare explicitement à Moïse, dans ce passage, « Je suis descendu. » Ben, Dieu vient de quelque part. Il vient de sa résidence principale, qui se nomme le ciel. Dieu a quitté le ciel pour venir sur la terre des hommes, pour rencontrer notamment un homme qui se nomme Moïse, et Dieu lui dit, « Je suis descendu pour le délivrer, mon peuple, de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Alors, je vous dis ces choses, elles sont importantes, vous allez voir. Comme quoi, Dieu, effectivement, est avec les siens, et ce, depuis l'origine. Dieu avec les siens. Je fais état également de la nuée au désert, connaissez tous, n'est-ce pas, cet épisode. Dieu est en train de guider les siens, je dis bien guider les siens, dans le désert, et en même temps, il est là pour stopper le peuple, et en même temps pour juger le peuple. le peuple qui veut du mal aux enfants d'Israël. Alors, dans le livre de l'Exode, j'ai relevé ceci, l'ange de Dieu. Moi, je crois que l'ange de Dieu, en l'occurrence, c'est le Seigneur Jésus. Ça avance peut-être un peu, mais tout me pousse à croire que c'est le Christ avant son incarnation. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, devant, derrière. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors que dire les ennemis des enfants de Dieu? Eh bien, ils dirent ceci, « Fuyons, car l'Éternel combat pour Israël contre nous. » Je suis avec vous tous les jours. Bien sûr, la promesse, on l'a 2000 ans après, mais elle existe. Dieu est bien avec les siens. Vous connaissez l'histoire du tabernacle, hein? Cette maison, enfin cette tente construite pour être la demeure de Dieu. Il est dit dans le livre de l'Exode qu'à un moment donné, la nuée, mais de quelle nuée s'agit-il, si ce n'est de cette chose visible qui représentait la présence de Dieu? La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors ça, je suis émerveillé de ce que dit l'Écriture, mais peut-être que j'ai du mal, et vous aussi, à comprendre ce que devait être à cette époque, la gloire de l'Éternel, la grandeur de Dieu. Dieu était là dans toute sa grandeur, il était là dans toute sa puissance. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, même s'il l'avait voulu, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu est vraiment avec les hommes. Dieu est vraiment avec les hommes, il est vraiment avec les siens. Dieu remplit le tabernacle de sa gloire, ce que nous venons de dire, mais en même temps, Dieu communique avec son peuple. Il est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, dans un lieu précis qui se nomme le tabernacle. Du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres et ceux pour les enfants d'Israël. J'apporte ici une petite conclusion. C'est que la présence de Dieu est réelle. Elle est réelle, la présence de Dieu. Elle a toujours été réelle. Elle est réelle. La présence de Dieu est intense. Intense. Je souhaite que nous connaissions de tels moments. La présence de Dieu est palpable. Elle est palpable. J'ai l'impression que si on étend la main, on va toucher la présence de Dieu. Je vais terminer pour les exemples de l'ancienne alliance avec le temple. J'ai relevé ceci dans le second livre des Chroniques, chapitre 7, verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Quel feu! C'était pas des éclairs dû par le tonnerre. Non, non, c'était un autre feu. Le feu descendit du ciel. Et que fit ce feu? Il consuma l'holocauste des sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les enfants d'Israël virent descendre le feu, tous, et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent, louaient Dieu en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Autrement dit, ceux qui nous ont précédés n'ont rien à nous envier, car Dieu était avec eux. Dieu se manifestait au milieu d'eux, et Dieu avait des rapports avec les siens. Maintenant, je vais aller un petit peu plus profondément. Le souhait de Dieu, c'est pas simplement d'être avec nous. Le souhait de Dieu, le vœu de Dieu, c'est d'être en nous. C'est différent. C'est d'être en nous. Et avant de vraiment d'approfondir cette pensée de Dieu en nous, je voudrais vous rappeler ceci, c'est que l'Écriture nous dit que Dieu était en Christ. Hein, le Christ qui est né de la Vierge Marie, ce Christ qui a pris une forme de chair comme la nôtre, Dieu était avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Il était en Christ. Il n'était pas simplement avec Christ, mais il était en Christ. Jean nous dit, parlant de Christ, le comparant à la parole, Jean nous dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Je pense qu'il fait allusion à l'expérience de la montagne de la Transfiguration. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien, dans ce prologue, nous lisons également qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu en Christ. Dieu avec les hommes, Dieu en Christ. Et maintenant, nous allons nous arrêter à ce qui nous intéresse, parce qu'il y a des choses fort intéressantes qu'on a besoin d'apprendre ou de réapprendre, et ce, pour notre bien, pour le bien de notre piété, pour le bien de notre vie chrétienne, pour le bien de notre relation avec Dieu. Dieu en nous. Dieu en nous. C'est quelque chose de fort. Dieu en nous. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que Dieu est en moi? Je voudrais vous aider dans cette question. Tout d'abord, vous rappelez ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, mais ce n'est pas simplement aux chrétiens de Corinthe qu'il dit cela, c'est pour les chrétiens de toutes les nations du monde entier. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps, on est bien dans un corps, hein? Oui, on n'est pas des incarnés, non, on n'est pas des esprits, on est bien dans un corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Que vous ne vous appartenez point à vous-même, en tous les cas on ne s'appartient plus, car vous avez été racheté un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est fort, ça mérite méditation. Ne savez-vous pas que votre corps, que notre corps, que notre esprit est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit qui est descendu, enfin, oui, l'Esprit qui est descendu dans le tabernacle ou sous la tente, c'est le même Esprit qui descend et qui entend habiter chacune de nos vies. L'apôtre Paul dit encore, toujours dans cet épître aux Corinthiens, il recommence, il martèle, ne savez-vous pas? Autrement dit, vous devriez savoir, intellectuellement, mais par l'expérience, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. On a lu ceci tout à l'heure. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Que je suis en vous. Alors la question, c'est celle-ci. Comment le Christ peut-il être en nous? C'est une bonne question. On n'est pas sot en se posant cette question. Comment le Christ peut-il être en nous? Alors tout à l'heure, on a lu quelques passages dans le prologue de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Je vous lis toujours dans ce même évangile, au même chapitre, ces versets, à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, c'est la parole faite chair, le Christ. À tous ceux qui l'ont reçu. Un jour, il a bien fallu croire en lui. Il a bien fallu le rencontrer, le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà comment on devient chrétien. La conversion, c'est ça. Et c'est pas autre chose. La conversion, ce n'est pas une vague adhésion à une vérité que l'on reconnaît intellectuellement vraie. Non. La conversion, c'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu volontairement dans leur vie, à ceux qui croient en son nom et au pouvoir de son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment Christ habite-t-il en nous? Eh bien, tout simplement parce que un jour, nous l'avons reçu dans notre cœur par la foi. L'apôtre Paul déclare aussi dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 6, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Autrement dit, devenez ses témoins. Marchez en lui. Je ne sais pas si vous pouvez vous remémorer l'expérience de votre conversion. En général, ça marque la conversion. Moi, je suis converti depuis plus de 50 ans. Voilà, plus de 50 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Parce que quand vous rencontrez le Christ pour la première fois, je vous prie de croire que ça vous bouleverse. Comme on dirait chez moi, ça vous chamboule. Ça vous bouleverse. Moi, je me rappelle du jour où j'ai pleuré sur mes péchés, parce que j'ai été convaincu de péché. Je me souviens du jour où j'ai dit oui au Seigneur, où je l'ai pris et confessé comme mon sauveur. Donc ça, c'est une expérience authentique. C'est une expérience qu'on ne peut pas oublier, c'est une expérience qu'on ne peut pas gommer. C'est une expérience dont on se rappelle. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Il n'est pas reparti, à moins que on ait mis de la bonne volonté pour. Mais il n'est pas reparti, il est toujours avec nous, le Seigneur est toujours en nous. J'aime bien le témoignage de celui qui va devenir l'apôtre Paul. À l'époque, c'est Saul de Tarse, ennemi de l'Évangile, ennemi du Christ, religieux, fanatique. Alors, il rend témoignage, il a rendu plusieurs fois témoignage, mais il rend témoignage. Et j'aime bien de la manière dont il rend témoignage dans l'Épître aux Galates. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Alors, on se dit, c'est pas possible. Parce qu'il en a fait, il en a fait des choses. Ah oui, il en a fait. Et vous n'en avez pas fait des choses avant de connaître le Seigneur. Et vous ne pensez pas que vous étiez déjà élu? Eh oui, il en a fait des choses. Il a même été meurtrier. Mais il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce de révéler en moi son fils. Il a révélé en moi son fils. Et le jour où Dieu a révélé en Saul de Tarse son fils, eh bien ce jour-là, le Christ a pris forme en lui. Le jour où nous avons reçu Jésus dans notre vie, dans notre cœur, Jésus a pris forme en nous. Christ en nous, comme le Père est en lui. Ça peut paraître mystérieux, prétentieux, mais c'est la réalité. L'apôtre Paul dit, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu, hein, dans l'Épître aux Corinthiens. Mais Jean nous dit, et Jésus par l'apôtre, moi en eux, et toi en moi. Moi en eux. Voilà que Jésus veut vivre en nous. Il veut tabernacler avec nous, il veut communier avec nous. Il veut échanger avec nous. Mais c'est toute la richesse de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que l'on subit, mais c'est une vie que l'on vit. Et la vie chrétienne est franchement agréable dans la mesure où on vit avec le Seigneur et où le Seigneur vit en nous. Christ en nous, comme la fève est dans le sel, nous avons sa vie, sa présence et sa vie en nous. Alors, Jésus fait d'étonnantes promesses qu'il est bon de se rappeler. Il dit, par exemple, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Soyez en communion avec moi et je serai en communion avec vous. » Ça ne sera pas un monologue, mais ça sera un dialogue. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. L'apôtre Paul aux Éphésiens dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On a un être intérieur, un homme intérieur, dans lequel le Seigneur habite. Et là, Le vœu de l'apôtre est celui-ci, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Seigneur, que ce soir, par ta présence en moi, je sois puissamment fortifié. Pas simplement fortifié, mais puissamment fortifié. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Que Christ habite dans vos cœurs. Eh oui. L'apôtre dit, et il interpelle les Corinthiens et nous interpelle à la fois, je crois que l'Esprit nous interpelle, « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Parce que vraiment, je soigne ma vie intérieure. Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que je soigne le Christ dans ma vie? Est-ce que je prends autant soin de lui que je prends soin de mon corps? À mon corps, ça je le soigne. Je n'oublie pas de le nourrir. Oui, et celui qui vit en toi, tu le fais jeûner combien de fois? Et tu te plains d'avoir les bras qui traînent par terre. Tu te plains de ne pas avoir le moral. Tu te plains de ne pas être béni. Mais à qui la faute? À qui la faute? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et s'il est en vous, vous avez en vous sa vie, vous avez en vous son dynamisme, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin. On peut aller un peu plus loin? Tant qu'à faire, hein. Cela aboutit à quoi? À ce que Christ soit en nous. Une bonne question aussi, ça. Cela aboutit à quoi? À ce que Christ soit en nous. Bien, je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est la pensée que j'avais quand Olivier m'a invité. Nous participons à une vie particulièrement privilégiée. Nous sommes certainement les plus privilégiés que la terre n'ait jamais porté. Dieu n'est pas éloigné de nous, il est avec nous. Et il nous fait l'honneur, que dis-je, la grâce, de vivre en nous. De vivre en nous. Nous participons certainement à la seule vie qui soit digne d'être vécue. Alors, je reviens à Paul parce que je ne vous ai pas donné tout son témoignage. Voici ce qu'il continue de dire dans son témoignage. Il dit « J'ai été crucifié avec le Christ. » Autrement dit, ma vie charnelle, ma vie humaine, avec ses désirs, ses prétentions, eh bien, cette vie-là, elle est crucifiée avec Christ. Et il ajoute, alors ça c'est un pas supplémentaire, là on va passer du primaire au secondaire, il ajoute, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah oui, ça c'est une autre dimension de la vie chrétienne, ça. Ce n'est plus moi qui vis, avec mes prétentions, avec mes objectifs, avec les buts à atteindre. Ah, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, et il vit dans la chair, et nous vivons dans la chair, il déclare, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand on peut dire avec Paul et avec vérité, parce que on a gagné quelque part, on a gagné sur notre chair, on a gagné sur nos ambitions terrestres. Quand on peut dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, eh bien ça veut dire que notre vie est à la disposition de Dieu. Ma vie à la disposition de Dieu. Est-ce que ta vie est à la disposition de Dieu? En admettant que Dieu veuille faire de toi son témoin, son serviteur ou sa servante, en admettant que Dieu ait quelque chose à te confier, par exemple, un appel au ministère. Ah. Oui, parce que l'appel au ministère, ça fait partie de la vocation, c'est pas quelque chose qu'on choisit, ça. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui vient du ciel. Est-ce que, affirmant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, est-ce que je peux mettre ma vie à la disposition de Dieu? Est-ce que je reste le propriétaire de ma vie? Est-ce que Dieu peut être le propriétaire de ma vie? Je pense que mon collègue avait un bel avenir dans ce monde, mais il a entendu la voix de Dieu et il a fallu lâcher un métier lucratif. J'ai dû laisser un beau métier à l'âge de 20 ans qui aurait fait de moi certainement un être plus riche que je le suis aujourd'hui. Enfin, ça, ce sont les biens de la terre qui n'ont rien à voir avec les biens célestes. Quand notre vie est à la disposition de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand notre vie est à la disposition de Dieu, alors on peut prêter l'oreille à ce que Paul dit aux chrétiens de Philippe, chapitre 2, verset 3, il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu en nous. Dieu en moi. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu en nous, par son esprit, influence notre esprit. Et quand on répond oui, alors on ne peut être que réjoui de faire la volonté de Dieu. Et l'on va certainement chercher à lui plaire, à le réjouir, à le satisfaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, au chapitre 13 et au verset 21, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que Dieu veut faire en toi qui lui est agréable? Qu'est-ce qu'il veut faire encore en moi qui lui sera agréable? Alors je pense que ce Dieu en nous, cette victoire de Dieu sur notre nature, sur notre chair, mais c'est une autre vie, c'est une autre vie. La vie chrétienne, c'est une autre vie. La vie avec le Seigneur, c'est une autre vie qui n'est pas comprise du monde. Je me souviendrai toujours, ça, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, je me souviendrai toujours de l'exemple de ce jeune homme. C'était un jeune homme à l'époque qui avait fait ses études d'ingénieur. Il avait réussi brillamment. Puis voilà que le Seigneur l'appelle. Alors il a, Il a fini par accepter l'appel de Dieu. Et quand il a partagé ça avec ses parents, qui étaient pourtant des chrétiens, ben, je vous prie de croire que ben, je me suis fait petit toute la soirée. J'avais toujours ce père, qui était un ouvrier, dire à son fils, mais j'ai travaillé toute ma vie pour te donner un métier. Et aujourd'hui, tu m'annonces que Dieu t'appelle. Et oui, c'était dur. C'est dur pour ce père. Enfin, c'est dur. Humainement parlant, c'était dur. Pense pas qu'aujourd'hui, ce père qui vit toujours regrette que son fils ait choisi la bonne part. Oui, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux que je sois une Marie? Que je me tienne à tes pieds? Que je te consacre plus de temps que je ne le fais? Tu veux m'utiliser comme un soldat qui jeûne et qui prie pour l'avancement de ton règne? Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Il est en vous, il est en moi. Et je pense que quand on accepte cette dimension de Dieu, alors on est appelé à connaître une vie de victoire, ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais le cas sans l'acceptation de la volonté du Seigneur. Quel privilège d'avoir le Seigneur en soi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez jamais lu cela? C'est Jean qui nous le dit dans sa première épître. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Ces forteresses, ces puissances maléfiques, diaboliques, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai à ma disposition un bien grand privilège par le fait que Christ est en moi, que Dieu est en moi. Je voudrais terminer avec ces deux citations, deux ou trois citations de Paul aux Colossiens qui dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Je crois que quand on accomplit son service, le service de Dieu comme ça, c'est pas fatigant. En combattant avec sa force. C'est pas mes petits muscles, mes petits bras musclés. Hein. Non, on ne travaille pas avec mes petites forces. Je travaille avec sa force. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et dans cette épître, Paul dira, Christ en vous, ça aboutit à quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ah, ça sera formidable quand on déménagera de cette terre en ayant Christ en nous. Parce que nous irons directement dans la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur nous soit en aide et nous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis avec vous tous les jours. Et pour toujours. Et pour toujours. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je crois que on a tous les éléments ce soir pour être béni du Seigneur, pour être renouvelé par lui. Et pour aller plus loin avec lui, que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous bénisse. Amen.